D'abord, en termes de transparence, c'est important. Comme vous le savez peut-être, j'étais le conseil du ministre-président de la Wallonie dans les semaines qui ont précédé la signature du traité. Je ne pense pas que ça ait un impact sur ce que je vais vous dire, mais on ne dira pas
Disclosure.
que je n'ai pas fait la full disclosure comme il faut effectivement le faire, tant en sa qualité académique que le cas échéant quand on veut siéger comme arbitre dans une procédure qui ne sera pas CETA, puisque de mon point de vue, je vais contredire Eric sur ce plan-là, elle n'est plus arbitrale. Mais c'est une question qui n'est pas vraiment au centre de mon exposé. Ce dont je voudrais vous parler, c'est une question extrêmement spécifique qui n'a pas été au cœur des discussions qui ont précédé la signature du traité, mais qui m'est apparue en marge de ces discussions et qui me semble particulièrement importante, d'une part parce que c'est vraiment l'air du temps, c'est-à-dire la révolte contre les élites, et d'autre part parce que je crois que c'est la question qui est au centre de notre profession de juriste. Je présume que tout le monde dans la salle ou presque est juriste. Bien sûr, le CETA pose d'autres questions qui sont peut-être plus importantes, des questions économiques, des questions politiques, mais il y en a une très spécifique dont je voulais vous parler, c'est la rédaction des traités. Et de manière un peu pompeuse, prétentieuse, mon exposé porterait l'intitulé Pour une rédaction démocratique des traités. Tenez-vous bien. Pendant les discussions qui ont précédé la signature du CETA, on a beaucoup parlé de la lecture du CETA. Il y avait tous ceux qui n'avaient pas lu le traité. Et il y avait ceux qui reprochaient aux autres de ne pas l'avoir lu et dont on présumait qu'implicitement, ils faisaient valoir de cette manière qu'ils l'avaient lu.
Oui, en effet. Oui, en effet.
C'est important, mais je ne parle pas de toi, Pierre. Et la lecture des traités, c'est une question extrêmement importante. Il y a quelques années, mais il y a trop d'années pour que je me rappelle exactement de qui il s'agissait, mais il y a quelques années, j'assistais à l'ambassade des États-Unis, ici à Bruxelles, à un exposé d'un monsieur américain qui, à l'époque, était membre de l'organe d'appel de l'Organisation mondiale du commerce. Et à titre d'introduction, il racontait cette anecdote. Comment avait-il été nommé à l'organe d'appel de l'OMC? Il disait, voilà, un jour j'ai été convoqué. Est-ce que c'était par le président de la commission des relations extérieures du Sénat ou est-ce que c'était par le secrétaire d'État? Il avait été convoqué, disons, par le secrétaire d'État et le secrétaire d'État lui avait dit, Jack, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez lu le GATT? Et le monsieur avait dit, oui, monsieur le secrétaire d'État, j'ai lu le GATT. Sur quoi le secrétaire d'État avait dit, dans ce cas, vous êtes à l'organe d'appel de l'OMC. Et donc la lecture des traités, c'est quelque chose d'important, et comme on le comprend au regard de cette anecdote, c'est quelque chose d'extrêmement assidu. Vous lisez le GATT en une fois, vous passez 2 semaines au lit après pour vous rétablir, tellement c'est illisible. Et donc, si la lecture d'un traité comme le GATT, qui est beaucoup plus bref que le CETA, pose problème, il faut peut-être se pencher sur la rédaction des traités. Et ce que je veux vous dire, c'est en substance que la rédaction des traités, c'est vraiment le travail des juristes dans la finalisation d'un texte qui, bien sûr, est négocié essentiellement par des économistes, par des gens de tous bords, mais la finalisation du texte, c'est le travail des juristes. Et ce que je vais vous dire, c'est que le devoir démocratique des juristes est de faire en sorte que les traités soient lisibles, compréhensibles, pas seulement pour les juristes, mais pour le peuple. Voilà. Alors, j'ai fait un exposé sur un sujet avoisinant en mai dernier. Je parlais des élites, maintenant tout le monde parle des élites, mais j'avais fait un exposé devant des spécialistes de l'arbitrage des investissements qui était intitulé Investor State Dispute Settlement from a Democratic Perspective. Quelle est la vision démocratique sur le système de règlement des différends investisseurs-État? Et je m'étais inspiré à ce moment-là d'un article d'un professeur de théorie du droit de NYU qui s'appelle Jeremy Waldron, que vous connaissez peut-être, que je ne connaissais pas. Enfin, c'est un professeur à NYU, donc ça doit être quelqu'un de bien. Je vous donne quelques extraits pour vous montrer, je dirais, l'essentiel de ses considérations sur la question de savoir, c'est le titre de son article, « Can there be a democratic jurisprudence ?» Est-ce qu'on peut concevoir une théorie du droit démocratique ? Alors, que dit-il ? Je vous cite en anglais, si ça ne vous ennuie pas. « Democracy is not just about electoral accountability. It is about the law itself and its being regarded as the property of those who are ruled by it. » En démocratie, le peuple est le propriétaire du droit et il doit se sentir propriétaire du droit. La démocratie, donc, conçoit le droit comme un ensemble, et je cite, de « norms », c'est un autre aspect, « norms that address matters of concern to the society as such, not just matters of personal or sectional concern to the individuals who happen to be involved in formulating them. » Encore, bon, vous me direz qu'après Jeremy Waldron, il faut aussi 2 semaines de reconvalescence, mais je poursuis. Law belongs to the members of the public. It is their law, not something to be imposed on them by a ruling clique. Better able than the people are to determine how the law should change. Ça, c'est une... En fait, une opposition dans le chef de Waldron contre tout ce que nous connaissons de la création jurisprudentielle du droit. La ruling clique, dans son optique, ce sont potentiellement les juges, oui, qui font évoluer le droit sans avoir consulté le peuple, oui. Et donc la ruling clique, c'est l'élite, ce que Waldron appelle l'aristocratie. The modern equivalent of aristocracy is the idea of personal qualities and expertise that offer some prospect of our getting the best laws. Vous avez une idée maintenant de cette étude de théorie du droit dont je m'étais prévalu en mai dernier. Et je crois qu'on voit immédiatement la pertinence pour le droit des investissements et les règlements des différents investisseurs-États. Pour reprendre le dernier point, celui de l'aristocratie et des experts, le droit international des investissements et le règlement des différends en la matière a bien sûr des traits aristocratiques prononcés. Quand la société civile se révolte contre le rôle des arbitres dans ce système, c'est parce qu'elle voit une élite, une aristocratie, une ruling clique. C'est exactement ça que la société civile dénonce. Et d'ailleurs, le débat auquel on a assisté sur la légitimité du droit international des investissements et sur le système de règlement des différents investisseurs-États est lui-même marqué, je trouve, par des arguments éminemment aristocratiques. Ce qu'on entend en permanence de la bouche des experts, c'est que les gens n'ont rien compris. Et évidemment, il n'y a pas plus aristocratique que cet argument-là, et il n'y a donc pas plus antidémocratique que cet argument-là. Au-delà de ça, je termine sur mon exposé de mai dernier. Il est manifeste que le contenu du droit international des investissements est critiquable d'un point de vue démocratique. Si on reprend cette approche de Jeremy Waldron, il y a un déficit démocratique. Par exemple, le standard du traitement juste et équitable que vous connaissez peut-être, il se trouve dans tous les traités de protection des investissements et généralement c'est une phrase. Les investissements d'une autre partie bénéficieront d'un traitement juste et équitable. C'est une norme ouverte, oui, comme l'article 1382 du Code civil, qui n'est pas autrement définie, mais donc elle confère une marge d'appréciation énorme à la ruling clique des arbitres. Problème démocratique. Alors, le régime de droit international des investissements protège les intérêts des investisseurs contre les États, il ne protège pas les États contre les investisseurs, traditionnellement, et il ne protège que les investissements sous l'angle de, disons, la protection, bon, ça devrait être nuancé, mais la protection de la propriété de l'investissement. Et donc, en isolation, la protection de l'environnement, des normes sociales, etc., etc. Et donc, pour revenir à Waldron, ce qu'il fait, c'est protéger des « matters of sectional concern ». C'est sectaire, le droit international des investissements, traditionnel. Alors, en réalité, le CETA, sur tous ces points, présente des avancées considérables, exactement sur ces points. Il définit de manière beaucoup plus détaillée le traitement juste et équitable, et de manière très restrictive d'ailleurs. Il définit de manière très détaillée ce que c'est qu'une expropriation indirecte, et surtout ce que ne constitue pas une expropriation indirecte suivant le traité. Il veille aussi à, je dirais, à englober le droit des investissements dans l'ordre juridique international en général. Le préambule rappelle très longuement les engagements des parties en matière de protection des droits de l'homme, diversité culturelle, développement durable, etc. Le traité énonce ensuite que le CETA doit être interprété en conformité avec la Convention de Vienne sur le droit des traités et les autres règles et principes de droit international applicables entre les parties. Oui. Et donc il est dit aux arbitres, vous ne pouvez pas interpréter ce traité en isolation des droits de l'homme et tout ça. Oui. Et alors, cerise sur le gâteau, quand il s'agit d'identifier les qualifications des juges, puisqu'en réalité, de mon point de vue, ce sont des juges, ce ne sont pas des arbitres, puisqu'ils sont nommés non pas par les parties au litige, mais par le président du tribunal, on pourrait y revenir, il est précisé que les juges doivent avoir une expérience reconnue en droit international public, et pour qui sait lire, mais justement c'est tout ça le problème, pour qui sait lire, on voit bien, ça veut dire, ce ne seront pas des arbitres commercialistes qui n'ont rien compris au droit international, ce sont des gens qui sont capables, qui savent ce que sont les droits de l'homme, qui savent ce que c'est que le développement durable, et qui donc sont outillés, qualifiés pour assurer cette interprétation et cette application harmonieuse du droit international des investissements. Et donc, de mon point de vue, sur ces plans-ci, il y a d'autres critiques qu'on peut formuler, très certainement, à l'égard du CETA, mais ce n'est pas l'objet de mon propos. Sur ce plan-ci, le CETA est une avancée, et une avancée démocratique. Mais donc, je crois qu'il faut faire mieux. Le contenu des traités est une chose, la rédaction en est une autre. Il faut, comme je vous le disais, que le peuple puisse reconnaître le droit comme étant le sien. Et pour ce faire, je crois, et c'est ça notre rôle de juriste, nous devons vraiment revoir la manière dont nous rédigeons les traités. Enfin, malheureusement, dans la salle, il n'y a personne qui rédige des traités. Enfin, ça fait partie de la profession des juristes de droit international. Et malheureusement, là, le CETA regorge d'exemples de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je vous en donne trois. D'abord, comme je vous le disais, le CETA a le mérite d'avoir défini de manière détaillée la notion d'expropriation indirecte. Je n'entre pas dans les détails, mais sur le plan de la pure rédaction, de la légistique, je vous indique ceci. La protection des investissements est dans le chapitre 8 du traité. Et ensuite, il y a 100 pages, 200 pages, on continue. Et puis tout à coup, on découvre la définition de l'expropriation indirecte en annexe 8A. 200 pages plus loin. Enfin, 200, je n'ai pas compté, mais...
On renvoie à l'annexe 8A dans le texte du chapitre 8.
Si. Et alors la question est de savoir pourquoi cette rédaction, certes on y renvoie, mais pourquoi a-t-on mis ça à cet endroit absolument éloigné de la définition de base? Ce qui m'inquiète, c'est que ce soit le fruit purement et simplement d'une psychorigidité ou d'un espèce de fétichisme de juriste. Et c'est pour ça que je veux nous responsabiliser. Si vous prenez un traité de protection des investissements style américain, prenez le traité modèle américain, il fait 20 pages, il y a la définition de l'expropriation et tout ça, et puis il y a en annexe la définition détaillée de l'expropriation indirecte. Ma crainte, qui est un peu la honte de notre profession, si j'ai raison, mais je n'en vois pas d'autre, c'est que tout simplement les juristes canadiens et européens, au moment où ils ont rédigé le traité, se sont dit, mais voilà, on prend un beau modèle, le modèle américain, le voici, les définitions de l'expropriation indirecte, ça se met en annexe. Oui. Et la vérité est que non, ça ne se met pas en annexe. Pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre la définition de l'expropriation indirecte en annexe? Oui. Il n'y a pas de règle formaliste, encore moins de principe de bonne légistique qui veut qu'on mette ça en annexe. Mettez ça dans le chapitre 8. Et surtout, ce n'est pas parce que dans un traité de 20 pages, on l'a mis en annexe, qu'il faut le mettre en annexe dans un traité qui compte combien ? 1500
avec
pages.
Les annexes.
C'est un premier exemple. Bon, vous me direz, c'est anodin, et le chapitre 8 renvoie à l'annexe, tout ça c'est très bien, mais encore on se demande, mais qu'est-ce qui a pris le juriste de faire un truc aussi obscur? Autre exemple. Comme je vous le disais, le CETA a le mérite de priver la protection des investissements de leur splendid isolation, oui, en évitant qu'ils soient appliqués et interprétés en vase clos, en isolation des autres règles du droit international. Et donc, il est prévu que le traité doit être interprété en conformité avec les autres obligations des parties, c'est très bien. Mais à nouveau, de mon point de vue, il n'y a qu'un juriste qui soit en mesure de le voir, et encore faut-il un juriste instruit, sachant ce que c'est que le droit international. Pour comprendre ce que les parties au CETA ont fait, en fait, de mon point de vue, il faut connaître le droit de l'OMC. On a intérêt à connaître le droit de l'OMC. Il faudrait savoir ce que l'organe d'appel de l'OMC a fait dans l'affaire Crevette-Tortue et dans d'autres affaires, comment il a interprété le texte au regard du préambule et tout ça. C'est merveilleux, oui, mais c'est spécieux et ça ne se voit pas quand on lit le texte du CETA. Et là, de nouveau, si on veut que le texte, si on veut que le traité appartienne au peuple, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit ce qu'on voulait faire? Qu'est-ce qui, dans les pratiques de bonne rédaction des traités, empêche de faire précéder chaque chapitre d'un traité qui fait 1500 pages de considérants propres au traité dans lesquels on aurait par exemple écrit, j'ai écrit un petit considérant qui précède le chapitre 8, il est expressément entendu par les parties que la protection des investissements ne peut en rien porter atteinte aux autres engagements internationaux des parties, tout particulièrement en matière des droits de l'homme, de la protection des investissements, de la protection de l'environnement, pas des investissements, etc. À cette fin, l'article X dispose que le CETA sera interprété et appliqué en conformité avec les droits de l'homme, etc. Et c'est à cette fin aussi que l'article Y dispose expressément que les juges devront obligatoirement avoir une expérience reconnue en droit international public de manière à ce qu'ils soient pleinement qualifiés pour assurer l'interprétation harmonieuse, etc. Il faut le dire dans le traité. De manière analogue encore, là je me rapproche un peu des discussions qui ont eu lieu avant la signature, il y a, bon ça arrive dans les meilleurs traités, il y a dans le CETA un chapitre 2. Et le traité, chapitre 2 ici, il traite du traitement national et l'accès au marché pour les marchandises, commerce de marchandises. Ce chapitre 2 comprend un article 2.7.3 qui dispose, et ça a surpris ceux qui avaient lu le traité, hein, pas ceux qui ne l'avaient pas lu évidemment, mais ceux qui l'avaient lu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Seul le Canada peut appliquer une sauvegarde spéciale au titre de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture de l'OMC. Et ceux qui avaient lu le traité, c'est-à-dire les ballons, ils ont dit, mais quoi? Comment? Pourquoi Est-ce que ce traité prévoit que seul le Canada peut appliquer une sauvegarde spéciale au titre de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture de l'OMC, et nous alors ? Oui. Et il est vrai que c'est extrêmement surprenant, a priori, qu'un traité confère à une partie et non à l'autre le droit d'invoquer une sauvegarde. Les traités, généralement, se font par la réciprocité. Il doit y avoir une raison. Oui. Mais alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette raison n'est pas tout simplement énoncée dans un considérant qui précède le chapitre 2 ? Oui. Alors, évidemment, le négociateur de la Commission, lui, il sait. Mais nous ne savons pas. Les travaux préparatoires, eux, ils savent. Mais nous ne les avons pas. Ils ne sont pas publiés. Oui. Et donc, il y a de nouveau, en termes de rédaction, un déficit démocratique. En supposant ce que je suppose, que le négociateur européen, s'il a fait cette concession, c'est qu'il y avait une raison. Oui. Mais il y a un problème démocratique fondamental. Pardon ?
Et quelle est cette raison ?
Ah, moi, je ne la connais pas. Justement, je ne la connais pas. Toi, tu la connais ?
Je crois qu'il faut lire le CETA au regard des accords de l'OMC et les sauvegardes au regard de la législation européenne, dont les États peuvent toujours se prévaloir. C'est tout. Les sauvegardes, c'est tout. Oui. Quand il y a un déficit.
On n'a toujours pas compris.
Non, moi, je n'ai toujours pas compris.
Non, mais je ne connais pas les travaux préparatoires. Donc mais ce qui est clair, en tout cas, et ce qui ressort aussi des déclarations... auquel tu as fait référence, Eric, c'est que le droit de l'Union européenne d'utiliser les mécanismes de sauvegarde qui sont prévus par l'OMC et le droit de la région wallonne, le cas échéant, d'avertir les autorités publiques belges pour qu'elles avertissent l'Union européenne de mettre en place des mesures de sauvegarde, ce droit-là est totalement intact.
Tout à fait, mais
la rédaction est tout à fait malhabile.
Ça ne rencontre pas mon objection, n'est-ce pas ? Je conçois tout à fait qu'il
n'y a jamais une renonciation par le CETA aux droits qui sont contenus dans les accords de l'OMC.
Je suis tout à fait d'accord. Là, je n'ai
aucun doute là-dessus. Le CETA lui-même renvoie à l'OMC.
Mais donc voilà. Et donc, c'est ça mon message. C'est, je crois que les juristes démocratiques, c'est-à-dire nous tous, doivent faire un effort pour vaincre leur psychorigidité et leur fétichisme est rédigé des traités de manière à ce qu'ils puissent effectivement appartenir au peuple plutôt que seulement à nous-mêmes, parce que nous risquons à un moment donné de payer le prix très cher. Et donc, il faut vaincre toute une série d'habitudes. La définition de l'expropriation indirecte, elle ne doit pas figurer nécessairement en annexe d'un traité de protection des investissements. Oui, on peut énoncer l'objet et le but d'une disposition dans le corps même de l'article. Je ne sais pas pourquoi on interprète au regard du but. Pourquoi est-ce que aucun négociateur d'un traité ne s'est jamais dit « Mais tiens, en fait, c'est une idée, je vais énoncer le but dans la disposition même. Faisons-le. Ça fait plaisir à ceux à qui appartient le traité. » Etc. Etc. Voilà, je crois que je peux en terminer là. Comme vous voyez, c'est très spécifique, je ne vous ai pas parlé de ce que vous vouliez entendre, mais je crois que c'est un problème fondamental du traité et de la manière aussi dont tous les problèmes qui s'en sont suivis ont été gérés. Le meilleur exemple, me semble-t-il, c'est ce qu'on appelle l'instrument interprétatif conjoint, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un texte qui avait été négocié entre le Canada, d'une part, l'Union européenne et les États membres, d'autre part, sans doute essentiellement l'Union européenne, et qui visait à faciliter, peut-on dire, la signature, l'acceptation du CETA par les partis, par la société civile et tout ça. Le premier défaut de ce texte qui est apparu immédiatement, c'est qu'alors qu'il s'appelait instrument à l'origine déclaration interprétative, fondamentalement, il n'interprétait rien du tout. Ce n'était pas une déclaration interprétative, c'était une déclaration, disons, descriptive du contenu du traité. Et ça, c'était malheureux, non pas parce que je trouve que décrire le contenu du traité, c'était une mauvaise idée, mais il ne fallait surtout pas l'appeler déclaration interprétative, parce qu'évidemment, La première question qui a pu être posée à certaines personnes était de savoir, est-ce que ceci est une déclaration interprétative et quelle est sa valeur juridique? Et la réponse, malheureusement, c'était, je suis désolé, ça n'a pas de valeur juridique parce que ce n'est pas une déclaration interprétative. Mais surtout, indépendamment de ça, je crois que l'erreur essentielle de ce texte, qui en fait visait à répondre à ce problème de déficit démocratique, c'est que plutôt que d'expliquer la portée du texte, puisque le but n'était pas de donner des interprétations et d'évacuer des ambiguïtés, mais d'en éclairer la portée, plutôt que de l'expliquer, de l'exposer en plus de détails, il en a décrit très brièvement les effets attendus. On pourrait citer plusieurs parties du texte. Et donc, plutôt que de rencontrer la société civile, ça revenait à lui dire tout simplement « Mais voilà, on vous dit que c'est bien. » Ce qui est à l'exact opposé de ce que, à mon avis, les juristes doivent faire dans une démocratie. Je vous remercie.